Bienvenue sur Aligre FM 93.1, je suis Cad, l'homme du 92, vous écoutez Championne, votre émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. En l'occurrence, ce soir, on va parler paralympique. Avec la légende américaine d'origine ukrainienne Oksana Masters, 17 médailles au JO dont 7 en or, sur seulement 13 ans d'activité et 3 Olympiades d'hiver, 4 d'été. Oui, c'est possible, cette femme bat littéralement toutes les limites. On va d'abord parler de ski de fond. En seconde partie, nous brosserons son portrait à cette championne dit la blonde sans alcool. C'est complètement faux, je viens d'inventer ce nom parce que j'avais pas trouvé le surnom. Pour cet épisode, je serai accompagné d'Elodie, dit The Red Arrow on the Road 66, ce qui veut dire la flèche rouge sur la route 66. Ça va, Elodie?
Ça va super, et toi?
Très très bien. Allez, on est parti, c'est l'épisode 10 de la saison 2, let's go. Chères auditrices, auditeurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc parler de chamois d'or, non pas le fromage, mais bien la première étoile de flocon, de chasse-neige, de moon boots. Nous allons aborder le ski de fond, un sport particulier, praticable uniquement dans un décor neigeux et frais, n'en déplaise à ces marcheurs l'été munis de bâtons sur nos trottoirs. Le ski de fond, avant de devenir un sport, il en découlait un moyen de transport. Oui, ça rime, ce soir je suis en forme. Et ce mode de déplacement existe toujours. Coucou, Eddy. My Canada, my brother. Trappeur du dimanche, randonneur de l'extrême ou sportif aguerri, ce sport est donc pour vous. D'ailleurs, Elodie, as-tu déjà dû recourir à un constat avec les marcheurs à bâtons sur les trottoirs? Tu les vois de qui je parle?
Oui, je vois.
Tu les vois, ceux-là, l'été, ils sont là, en bâton. Là.
Ah, ouais, je vois. Déterminés, hein.
Ah, déter, hein.
Ouais.
J'espère avoir la même foi quand je serai plus vieux.
Moi aussi.
Parce qu'ils ont souvent la
même
tranche d'âge.
Parce que même à mon âge, je ne suis pas sûre d'avoir cette détermination.
Moi, je remarque qu'ils sont souvent dans la même tranche d'âge.
C'est vrai.
Il y a un truc, tu vois.
Il y a un truc, ouais. Je pense que, tu vois, on parlait du paddle il y a quelques semaines. Tu passes par l'étape, tu commences par le paddle, puis t'évolues petit à petit.
Et tu finis par marcher bâton.
À chaque décennie, tu vois, tu changes.
T'as un sport, le marcher bâton. Je... Non, je pense pas que ça existe comme sport, ce truc. Faut que je regarde, en vrai.
Je pense pas.
Et bien sûr, avant de développer le ski de fond, pas du Jura, mais bien des Pyrénées, celui des Alpes, du chocolat et des montres, jingle, auto-promo. Alors, vous connaissez notre rendez-vous en direct de l'émission le vendredi de 19h à 20h. C'est maintenant, c'est tout de suite. Mais aussi en rediff le mercredi de 17h à 18h. Oui, j'ai toujours cru que c'était le mardi, alors que c'était bien le mercredi. Je suis parti vérifier que hier. Au bout de 30 épisodes, c'est quand même pas mal. Nous sommes bien en direct comme d'habitude, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nous écouter et nous retrouver en podcast. Si vous êtes coincé quelque part, en train de réfléchir à comment devenir président et sortir de prison ou bien comment faire de la musique sans crier comme une chèvre, ce n'est pas grave, vous pouvez tout écouter en replay sur la page de la radio. Tapez Google, tapez Aligre FM Podcast, cherchez l'émission Championne. D'ailleurs, vous avez plein d'autres émissions sympas comme L'huile sur le jeu, Cappuccino, Les arènes de l'écologie, Radio Scénique, Au fil des pages. Vous aimez la musique? Chacun son tempo. Vous voulez quelque chose? Nous l'avons. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette que tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont presque tous en ligne car celui du sumo n'est toujours pas arrivé. Il est vrai, j'ai oublié d'en parler, mais je ne l'ai toujours pas eu. Il sera en ligne, bien sûr, dans les prochaines heures. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, @championne_l'émission. On va prendre un petit instant déjà. Comment ça va cette semaine, Elogie? Est-ce qu'il y a déjà des projets pour Noël?
Elogie.
Elogie, tout à fait. L'arrêt du logis.
Oula, c'est bien mal me connaître.
Bah attends, il paraît que tu fais un carpaccio de bœuf. De l'espace.
De l'espace.
Alors, des projets pour Noël?
Pour l'instant, il faut savoir que Noël, c'est à la fois, j'adore cette période.
Ouais.
À la fois, c'est une angoisse totale.
Pourquoi? Dis-nous.
Mais parce que moi, les cadeaux, j'adore offrir.
Ouais.
Mais je sais jamais quoi offrir.
Ah.
Et pour moi, la saison de Noël, elle commence maintenant parce que c'est l'anniversaire de mon frère et de ma belle-sœur.
Ah d'accord, ok.
Là, dans 3 jours.
Le stress monte, la
pression. Je n'ai rien acheté. Et après, ça enchaîne direct sur les Noëls. Et moi, je sais pas le faire.
Ah d'accord.
Et du coup, je rentre dans un espèce de stress total de novembre à fin décembre. Ouais, c'est un enfer. Mais j'adore la période. Je trouve ça beau, féerique, les films de Noël, j'adore. Mais vraiment, une angoisse du début à la fin.
Ouais, pour trouver les bons cadeaux, c'est toujours très difficile. Moi, tu vois, j'ai une autre angoisse. Bon, alors, moi, personnellement, je vais vous décevoir, mais oui, non, je n'aime pas Noël en particulier, puisque c'est très personnel, mais je n'aime pas qu'on me dise quand je dois offrir des cadeaux aux gens. Je préfère en offrir quand j'ai envie. Ça, c'est, voilà. Mais par contre, moi, mon angoisse, c'est ce que je vais recevoir. J'ai toujours cette angoisse de recevoir des cadeaux qui n'ont absolument aucun sens. Limite, donne-moi un bon d'achat, donne-moi une photo dédicacée de Spider-Man.
Alors, tu vois, moi, à l'inverse, je suis contente de tout. J'ai peut-être des traumas d'enfance, peut-être. Moi, on m'offre une carte, tu vois, une carte avec un petit mot gentil. Je suis hyper contente, tu vois, tant qu'il y a un dessin fait maison. Hyper heureuse. J'ai pas besoin de trucs de fou. Tu vois, moi, pour le coup.
Moi, en fait, j'adore offrir, vraiment. Mais recevoir, c'est une angoisse parce que je sais que des fois, je vais recevoir des trucs et en vrai, c'est pas grave si tu m'offres rien, tu vois. Mais y a des
la
trucs.
La paire de chaussettes.
À la limite, donne-moi des chaussettes McDo, je vais rigoler, tu vois. Mais bon. La parenthèse sur Noël étant terminée, on continue. Déjà, un coucou à Sandrine qui nous écoute, Camélia, Mélanie, Chai, dédicace à la régie Diego Armando Maradona, toujours présent ici. Il est là. Merci évidemment à Sandrine d'avoir trié ses 9999 mails, dont 9998 spam. Pour envoyer un message, c'est facile. Vous rédigez un mail et puis vous l'envoyez à championne@aligre.org. Voilà. Alors, le message de cette semaine vient de Bigard78. Alors, un homme qui nous écoute apparemment souvent. Bigard78 nous dit « Vous faites de jolis éditos poétiques chaque semaine, mais il faut réfléchir pour les suivre, c'est relou. Vous n'auriez pas juste des histoires drôles, parce que sinon, voilà quoi. » Alors, merci du message, Bigard78. J'ai effectivement quelques histoires drôles dans ma besace. Ah oui, je ne suis pas le dernier à rire. La première. Ah, va te plaire celle-là, Elodie. Pourquoi le padel est un sport de droite? Car c'est un sport de raquette. Wouh, double sens. Eh oui, mesdames, je me mets au niveau des grosses têtes, sachez-le. On continue. La seconde, c'est Donald Trump qui décède. Fin de la blague.
C'est ce que j'allais dire, c'est fini.
Voilà.
Ça, je connaissais la chute sans le savoir.
Voilà, t'as vu ? Je suis sûr que chez vous aussi, vous la connaissiez. Et bien, maintenant, la dernière. Alors, cette histoire... Et la suivante, c'est Bernard Arnault qui décède. Il arrive au purgatoire confiant. Il se présente. Bonjour, je suis Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde. Je pèse dans les 200 milliards. J'ai donné du travail à des millions de personnes. J'ai racheté Louis Vuitton. J'ai racheté Dior. J'ai racheté Kenzo. J'ai racheté Marc Jacobs. La personne derrière le bureau est un peu dubitative et répond « Salam alaikum, Bernard !» Là, évidemment, Bernard est décontenancé, pris de panique. Il répond « Mais il y a erreur, où est Saint-Pierre ?» L'homme en djellaba, barbu, répond, descend de son bureau, s'approche de lui, il fait « Bah, on a racheté la franchise, vous n'êtes pas spécialiste du rachat, vous ?» Là, du coup, Bernard commence à faire un malaise. Mais l'homme barbu, très sympathique, le prend par le bras pour le soutenir. Et il lui dit « Vous inquiétez pas, vous nous avez aidés pour Notre-Dame, ça compte. On est ensemble, toutes les religions, toutes les croyances, vous irez donc bien au paradis, Bernard. » Bernard souffle, soulagé. Il dit « En plus, c'est vrai, vous êtes sympa, moi j'ai un ami arabe, pour l'Aïd, il me fait des macroutes. D'ailleurs, Aïd Mboulouk, monsieur !» Bernard et son accompagnateur arrivent devant les portes du paradis. Les portes s'ouvrent, chaleur de dingue. Un cri, Manuel Valls, lui est ici. Il se fait fouetter en criant « Vous n'auriez pas un job pour moi ?» Nicolas Sarkozy est là aussi, il est au loin, et il est condamné, puis relaxé, condamné, puis relaxé, condamné, puis relaxé, condamné, puis relaxé. Bon, un peu comme un lundi. Et enfin... On voit Rachida Dati en larmes. Elle est obligée de donner des bijoux à des intermittents du spectacle. Horrible spectacle. Bernard s'écrie « Mais ce n'est pas le paradis, ça !» Et le barbu Angelaba est désolé et lui répond « On s'est fait racheter la semaine dernière. » C'est le moment où vous faites semblant de rire et bien sûr d'applaudir. Merci de m'avoir écouté. On repart sur le sport. Le ski de fond. Comment ça marche ? Qui sait qui je suis ? Le ski de fond. Bientôt à Barachich à moto, Elodie ?
Je suis pas sûre du projet.
Il y a moyen.
Il faut faire une étude de marché.
Le bar Chicha Moto Pomme. Évidemment. Alors, le ski de fond, pour commencer, bah, qui que c'est ? Mais d'abord, est-ce que tu as déjà fait du ski de fond ou du ski tout court ?
Alors, moi, il faut savoir que j'ai une anecdote avec la neige. Spéciale dédicace à Mélanie et Diana qui ont failli me tuer. Il faut savoir que je suis allée qu'une seule fois au ski de ma vie.
Ouais.
C'était l'année dernière.
Ah ouais. Oui. Ah oui, quand même.
L'année dernière, et donc avec ma meilleure amie Mélanie et sa petite sœur Diana. Elles font du snowboard.
Ouais, ok. Donc du skate, mais sur la neige.
Mais voilà, exactement. Sauf que moi, je me suis dit, bah, si elles le font, moi aussi, je peux le faire.
Grossière erreur.
J'ai fait la plus grosse chute de ma vie. Heureusement, j'étais hyper bien équipée. Déjà, j'avais pris, et là, tu vas rire, mon équipement de moto.
Ouais, ça t'es jamais allé à la neige, toi.
Non, j'avais mon équipement de moto et j'avais loué, bah, évidemment, le snow, casque, etc. Mais ma veste, c'était une veste coquée de moto. C'était très drôle. Celle que je porte aujourd'hui, d'ailleurs. Et en fait, j'ai freiné, contre-freiné. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai volé et j'ai atterri sur le dos. Donc, heureusement, j'avais mes équipements en moto et sur la tête. C'est
ce que j'allais dire. Heureusement, tu as des trucs de moto, en vrai.
Ouais, en vrai, ouais, ça m'a sauvé. Et sur la tête aussi. Donc, toujours porter un casque, les gars.
Même sur du ski.
Même, toujours.
Alors, je te rassure, moi, j'ai été au ski une seule fois dans ma vie. 1989, classe de neige, La Bourboule.
Non, j'ai jamais fait de classe de
neige. On est parti 2 ou 3 semaines. On m'a fait faire le chasse-neige. J'ai eu ma première étoile. Mais étant donné que je ne comprenais absolument pas, parce que c'était très mal expliqué de comment on se tient sur des skis, etc. Eh bien, déjà, je m'asseyais sur le tire-fesse. Donc, je tombais et je ne comprenais pas. Et là, le prof, il disait, mais c'est comme un siège, tu t'assois. Et je m'asseyais de tout mon poids et je tombais et le tire-fesse me traînait sur 10 mètres. Imagine un enfant de 9 ans traîner sur 10 mètres avec une combinaison en galère.
J'imagine bien la scène.
Horrible. Donc je déteste les sports d'hiver. J'ai aussi failli tuer mon prof parce que comme j'arrivais pas à tenir sur les skis, je m'asseyais. Je glissais mais assis. Je sais pas si t'imagines.
Oui, je vois la scène.
T'es assis et tu fisses comme ça, comme une espèce de missile sur les gens.
Non, mais depuis ce jour-là, j'ai un profond respect pour les gens qui font ça tous les ans.
Ouais, clairement.
Parce que j'ai jamais autant transpiré de toute ma vie. Parce que comme je passais ma vie par terre.
Ouais, au sol.
complètement. Et il faut se relever en snow.
Oui.
C'est qu'il faut y aller. Les cuisses.
C'est vrai.
Qu'il faut pour. J'ai jamais autant. Il faisait froid. J'ai jamais autant transpiré de ma vie tout entière.
Et encore, on a dit, moi j'ai fait du ski alpin, donc c'est le ski où en fait, prenez vos après-ski, ça fait clac-clac. Mm-hmm. Et effectivement, si vos jumps partent d'un côté le corps, il n'y a plus de genoux. Mais et de l'autre côté, il y a le ski de fond, ce dont on va parler. T'as vu, transition, on s'améliore pas quand même, franchement.
Franchement,
pas
on est fort, hein.
Ouais. Le ski de fond, c'est un sport d'hiver populaire, notamment en Europe, notamment en Scandinavie, Norvège, Finlande, Suède, là où il y a de la neige, en Russie aussi, et au Canada, ou dans les grands coins tels le Nebraska américain. Évidemment, dans l'ensemble, les pratiquants de ce sport sont appelés des fondeurs. Ah, et ça, je ne le savais pas, je l'ai appris dans une émission. C'est un sport olympique très tôt, aux Jeux olympiques d'hiver de 1924. Bientôt, ça fait un siècle. Ça fait 100 ans que c'est un sport olympique. Ça, c'est fou. Donc, vous avez la Fédération Internationale de Ski, International Federation of Ski, FIS, bien sûr, qui est donc l'organisme en charge des compétitions et des championnats du monde, Coupe du monde de ski de fond. Il faut savoir que pour les JO, évidemment, c'est le comité olympique qui s'en occupe. Les skis utilisés sont longs et étroits, c'est-à-dire qu'ils sont plus fins que des skis classiques et ils ne possèdent pas de clic-clac au niveau du talon, parce qu'en fait, vous pouvez lever votre talon. Vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux techniques de ski, la classique qu'on connaît bien ou le skating, pour faire du ski de fond. Est-ce que tu connais ces deux techniques ou est-ce qu'il faut que je les explique ?
Non, vas-y, explique.
Très bien.
T'expliques bien mieux que moi.
Ça dépend. Alors, la première technique, la classique, c'est en fait, vous êtes sur vos skis, vous êtes un peu accroupi, et puis vous bombardez avec les bâtons et vous filez. Et après, vous faites bâton rando, mais sur du ski. La deuxième, c'est qu'ils font une espèce de chasse-neige en ski de fond. Je sais pas comment ils font. Vraiment,
ouais.
Je pige pas trop. La première, c'est la classique. Et puis après, vous avez ce mouvement effectivement qu'on voit très souvent.
On alterne les jambes, les bras, clac.
Dans n'importe quel film de James Bond où il y a de la neige, il y a un skieur de fond.
Voilà, exactement.
C'est habituel.
Et pour les go-muscu, c'est comme sur l'elliptique.
Ouais, bien vu, belle. Oh là, magnifique. Belle transition, rien à dire. Alors, il faut savoir qu'il y a un truc que je ne connaissais pas sur le ski de fond, c'est qu'en fait, ils sont obligés de mettre du fart. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est du fart ? Sous les skis, pour que ça glisse. C'est en fait comme de la résine qui va en fait humidifier le ski pour que le ski il glisse plus facilement dans la neige. Et plus la neige, elle est mouillée, plus en fait, il faut que ce soit sec. Plus la neige elle est sec, plus en fait le liquide doit être mouillé. Et il y a vraiment des techniques là-dessus, parce que ça compte quand vous faites des compétitions olympiques ou mondiales, ou si vous voulez aller plus vite. Donc il y a vraiment un enduit spécial à mettre, du fart.
Peut-être que ça vient de là, ça fart, pour les plus anciens.
Oh,
je pense que oui, parce que c'était
oui.
C'était les surfeurs qui utilisaient beaucoup ça.
Exactement.
Et ils utilisent aussi de la... Ouais. Alors eux, c'est de la wax, mais ça doit être pour le même principe.
Bien vu, mais... Bravo, rien à dire.
Alors, c'est un peu vexant que tu sois aussi étonné que ça.
Je sais. C'est un peu le but, je te cache
mais
pas.
Mais voilà.
Non, bien vu. J'ai le coup de safart.
J'ai grandi avec Brice de Nice.
Oui,
c'est pile ma génération.
C'est pas mieux. J'avoue, j'ai pas mieux sous celle-là. En fait, moi, le fart, c'est quand en anglais, on fait un prout, tu vois. Donc, je pensais que ça avait un rapport, mais en fait, non. T'as plus.
Non, safart.
Là, le safart.
Je pense que c'est totalement ça.
Bravo. Alors, pour les compétitions de ski, parce qu'il en faut, évidemment. Les Jeux Olympiques d'hiver, et depuis 1924, existent, et tout de suite, on a mis du ski de fond dedans. Ça a toujours été programmé. Et lors des JO 2006, il y a eu 12 épreuves distinctes de ski de fond. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'épreuves. Il y a plus d'épreuves de ski de fond
que de tout le reste presque.
Football, déjà, il n'y en a qu'une. Voilà.
Ouais, voilà.
Là-dedans. Donc vraiment, c'est assez fou. Il y a les championnats du monde organisés par la Fédération internationale de ski, qui est une fois tous les deux ans. Et c'est les championnats du monde nordique. Vous avez le ski de fond, le saut à ski notamment, le combiné nordique, plein de choses avec le slalom, ce qu'on voit généralement, ce qu'on a vu dans notre enfance grâce à France 3, bien sûr, qui avait le droit de mettre du ski à la télé. Et à partir de comment dirais-je, l'événement des championnats du monde, elle existait depuis 1925, mais en fait la Fédération internationale s'en est accaparée et organisée depuis 1950 seulement. Donc c'est assez fou la longévité de ce sport. Donc dans les épreuves, évidemment, vous avez du 15 km. Alors il y a des épreuves hommes-femmes, on est sur un sport mixte. Chacun sa catégorie, certes, mais les femmes ont le droit de faire du ski. C'est important de le dire.
C'est important de le souligner.
Voilà. Ce n'était pas le cas tout au début. Voilà. Donc, on a du 15 km, on a du 50 km, on a carrément des épreuves de relais. Ça, je ne savais pas. Du relais 7 km 5. Tu donnes le relais, c'est ton pote qui repart pour 7 km 5. Le 4 fois 7 km 5. Toujours dans la neige. C'est une dinguerie.
Ouais.
C'est physique. C'est extrêmement physique, je trouve, comme sport. Donc en France, évidemment, la Fédération française de ski gère le ski de fond, c'est important. Et pour les questions, ne t'inquiète pas, elles arrivent tout de suite, ma chère Élodie, car tu te poses cette question. Mais combien y a-t-il de licenciés
en ski?
En ski, en 2024, en France?
Alors beaucoup moins que dans des sports qui vont être praticables à toute saison.
Exactement, bien vu.
Déjà, ça réduit, c'est quelques mois par an, et encore, dans quelques
stations et quelques
stations,
endroits.
Voilà, quelques endroits spécifiques. Franchement, je dirais qu'il y en a peut-être 10 000.
92 867 licenciés de ski en France sur 807 clubs, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Pour la licence, ça va de 50 à 100 euros pour la licence carte neige loisir. Et la licence carte neige compétiteur, c'est de 65 à 150 euros. Donc, j'ai calculé pour vous. Sachez que pour faire du ski de fond, mais pas seulement, mais on va dire juste du ski de fond, il faut minimum par an 500 balles, parce que les skis, ça peut aller à 380 euros, les bâtons, ça va jusqu'à 150 euros en carbone, bref, les gants, la combi, c'est le plus cher, 313 à 450 euros, c'est ce qu'il y a de plus cher avec les skis, clairement. Donc vous avez 500 euros minimum pour vous équiper, prendre votre licence sans le prix du club, sans les forfaits montagne, sans la chance d'aller dans une station de ski, sans le billet de train, le gîte, le couvert et... s'il y a de la neige,
oui.
Parce que le dérèglement climatique, on l'embrasse, il est là. Et ça peut monter jusqu'à 1500 euros si tu veux vraiment un bon truc et tout. Donc, comme le paddle, c'est un sport où il faut mettre un PEL. Voilà.
Ouais.
En tout cas, en France. Si tu vis au Canada, c'est autre chose. Si tu vis en Suède et tout, pourquoi pas.
Ouais, mais en France, c'est parce qu'on n'est pas un pays de neige.
Non.
On n'est pas un pays avec cette culture.
Non, vraiment, ça n'a rien à voir et c'est très cher. Du coup, c'est aussi pour ça que je ne suis jamais allé au ski. Moi, je préfère la montagne déjà.
Moi, je l'ai fait une fois. Je ne dis pas que j'y retournerai jamais, mais il faut me laisser un peu de temps.
Non, parce qu'on a tous des amis, tu sais, qui ont l'habitude en février de partir faire un peu de ski, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre. Ça doit être dans ton habitude.
Ma mère, elle habite à côté de Nice. Donc, en fait, en moins d'une heure, elle est à la montagne, elle est au pied de la mer également. Donc, voilà, je suis partie en vacances la voir, elle m'a dit ce serait pas une super idée qu'on se fasse une journée au ski.
Tu t'es jamais gonflé.
Franchement, si elle a d'autres idées comme ça, qu'elle m'appelle pas surtout.
Tu t'es jamais pris un sapin? Vas-y, on va faire ça.
Vraiment, la chute. C'était une super journée, mais vraiment, la chute, elle m'a refroidi.
Et en pensant neige et en pensant fête de fin d'année, on va s'écouter de la musique. Créer et penser pour les fêtes de fin d'année, comme je viens de lire deux fois, parce que j'aime bien me répéter, c'est comme ça la vie. Surtout, dans un truc spécial. Vous allez devoir deviner le film, mesdames et messieurs, avant que j'envoie le morceau, grâce à Diego Armando Maradona. Attention, morceau pensé pour les fêtes de fin d'année, surtout si vous êtes un policier new-yorkais, devant aller se réconcilier avec son épouse, vivant à Los Angeles, avec l'intention de participer à un repas de Noël organisé par l'entreprise de votre femme, Musique Maestro.
Je l'ai. Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
out. Jingle bells time and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet, that's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square.
Gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet, that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.
Bonjour à nouveau, auditrices, auditeurs. Je suis toujours Cad, l'homme du 92. Nous sommes toujours sur Allegre FM 93.1. Vous êtes bien dans l'émission championne qui traite du sport féminin. On vient d'écouter un titre de Noël légendaire. Cela date de 1957. Ouais, c'est pas tout jeune. Un morceau de Bobby Helmer qui s'appelle Jingle Bell Rock. Et avez-vous bien deviné le film? Et là, on va voir. Alors, je pourrais vous souffler la réponse, mais on va voir si Elodie, tu l'as.
Bien sûr que je l'avais.
Alors, vas-y, le film.
Mais je l'ai trouvé. À tes indices, je l'ai trouvé. Ah,
Diego Armando Maradona l'a trouvé aussi. Hein.
Ah bah, c'est Die Hard.
Ah, bien sûr,
évidemment.
Piège de cristal.
Piège
bien
de
sûr,
cristal.
Bravo.
Bruce Willis.
Bruce Willis dans le rôle de John McClane, doublé en VF par le feu extraordinaire Patrick Poivet. J'appile pas pour commander une pizza.
Tu le fais bien.
Merci. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur la VF dans deux secondes. Face à lui, Hans Gruber, joué par Alan Rickman, plus connu dans le rôle de Rock dans Harry Potter pour le grand public, doublé en VF par Pascal Renwick. Et pour la...
Rock dans Harry Potter.
Ouais, Rock dans Harry Potter, c'est Hans Gruber, c'est
j'ai
le méchant.
J'ai jamais fait le rapprochement, tu viens me faire... Tu viens de me débloquer un truc là.
Je sais. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime bien donner des anecdotes, évidemment. Alors, pour l'anecdote aussi, je pense que tu connais ce petit personnage de Rocket Raccoon dans Les Gardiens de la Galaxie.
Bien sûr.
Des films Avengers.
Vin Diesel.
Voilà. Et Rocket, qui est la voix française de Bradley Cooper, en fait, il faut savoir que l'anecdote, il imite Bruce Willis de Patrick Poivet en faisant Rocket. Et quand tu réécouteras Rocket, tu penses à Bruce Willis et tu vas dire, purée, c'est ça. Et c'est trop marrant.
Oui, ah, peut-être.
L'intonation de...
Ah, faut que je le réécoute, je regarderai.
C'est lui-même, oui, c'est lui-même qui donne l'anecdote et c'est génial, en fait.
J'ai dit Vin Diesel, mais non, Vin Diesel, c'était
c'est pour Groot. Groot.
Je s'appelle Groot.
Et bien sûr, reprenons aujourd'hui, mon nom est le rossignol du Jura. On va demander à la slalomeuse mangeuse de poulet des Pyrénées, comment ça va?
Eh bien écoute, ça va.
Voilà, et toi t'avais la réponse du quiz, et ça
bien
déjà?
Bien sûr, je l'avais dès le début. Deuxième indice, je l'avais.
Eh, tu sais quoi, je vais en faire plein comme ça avec les musiques. Allez, c'est fait. Dédicace à la régie comme d'habitude, Diego Armando Maradona, qui lui a trouvé évidemment. Et on va parler de sport, la légende de la semaine, Oksana Masters. Alors déjà, est-ce que toi tu avais déjà entendu parler de cette athlète de très 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 haut niveau?
Jamais.
Bien d'accord.
Vraiment jamais entendu parler.
Pareil.
Alors déjà parce que bah, je pense que, enfin c'est pas je pense, les Jeux paralympiques sont beaucoup moins mis en avant que les Jeux olympiques.
Exactement.
Mais non vraiment jamais. Après j'avoue je suis pas beaucoup les sports d'hiver en plus.
Alors ce qui est fou, alors c'est très bien parce que déjà tu précises que c'est une athlète paralympique, ce que je n'avais pas dit. Bravo.
Pardon.
Non mais très bien.
J'ai spoilé.
Non mais tu peux. Elle a quand même gagné des médailles en aviron, en cyclisme sur route, donc sur les JO d'été. Elle a fait les JO d'hiver pour le ski de fond notamment. Et elle a un quatrième, c'est quoi déjà? Qui est son quatrième sport? Elle fait quatre.
L'aviron.
Ah le biathlon.
Et biathlon.
Le biathlon.
Voilà, c'est ça.
Biathlon d'hiver d'ailleurs. Mm-hmm. Donc quatre sports différents dans des JO d'été et d'hiver. Alors déjà un athlète classique fait jamais ça. Mais comme on a dit qu'il y a des sports transverses, là, elle a vraiment pété le score. C'est pour ça que je trouve ça déjà impressionnant. Quand t'as T'as 17 médailles, 7 d'or, enfin bref, c'est
19. Un... 19 médailles dans 4 disciplines.
Voilà, déjà c'est fou. Et effectivement, paralympique. Alors, c'est quoi la définition des Jeux paralympiques? Je vais vous la donner pour ceux qui seraient passés à côté. Donc, c'est une compétition multisport, similaire aux Jeux olympiques, mais réservée aux athlètes présentant un handicap physique, qu'il soit moteur, visuel ou mental. Les premiers Jeux reconnus à la suite des Jeux de Stock-Mandeville ont eu lieu à Rome en 1960 et 1976 pour les Jeux d'hiver. Ils ont lieu tous les 4 ans, en alternance, été-hiver, comme les Jeux Olympiques. C'est toujours à la suite des Jeux Olympiques que vous avez les Jeux Paralympiques. Depuis les Jeux de Séoul 88, ils sont organisés par le CIP, le Comité International Paralympique. Il existe évidemment des championnats du monde handisport qui servent de, au-delà du titre, souvent de qualification pour les Jeux Paralympiques. C'est clairement les JO Paralympiques, c'est le Graal. C'est vraiment la médaille que tu veux, quoi. En 2027 se dérouleront la 11e édition des championnats du monde. Et il faut savoir quelque chose, c'est qu'à la base, les Jeux paralympiques, on en parlera dans la troisième partie, mais c'est une idée d'un docteur qui en fait avait des gens qui malheureusement avaient fait la Seconde Guerre mondiale, on est en 48, et qui étaient blessés de guerre, et il leur a fait une compétition que pour eux, pour les intégrer. Donc il y a un côté social et un côté exploit que, comme tu l'as dit, on ne met pas beaucoup en avant. Bizarrement, alors qu'en fait les exploits sont juste hors sol, quoi. Alors, Oxala Masters, je commence, tu complètes, ça te va?
Ça me va.
Let's go. Oxala Masters Alexandrovna Bondarchuk est née le 19 juin 1989 à Khmelnytskyi, en ancienne URSS, en Ukraine. C'est une sportive américaine d'origine ukrainienne. Donc, elle est née avec de graves malformations. Et là, les malformations, je pense que tu peux déjà en citer quelques-unes parce que c'est une dinguerie.
Oui, bah la principale, ça a été, elle est née avec des malformations au niveau des jambes. Elle a dû se faire amputer des jambes.
Ouais.
Elle a 6 doigts à chaque main.
Exactement.
100 pouces, ce qui est assez remarquable quand même. Et en plus, 4 des doigts étaient soudés.
Ouais.
Donc, les cumule, là.
Non, c'est complètement
c'est
fou.
Vraiment... ouais, il y avait ça. Bon, après, des problèmes de santé... Elle n'a pas de tibia, c'est ça. Problème de santé dans tous les sens. Mais vraiment, le principal, c'était ses mains, ses pieds. Et le fait qu'elle n'avait pas de tibia.
C'est exactement ça. Alors, il faut rappeler qu'évidemment, elle est née en 89. Il faut savoir que Tchernobyl, c'est une centrale nucléaire peu connue pour certains, pour les plus jeunes, mais les plus vieux comprendront, qui a explosé en 86, en avril, et le nuage radioactif s'est bien arrêté à la frontière française lors d'un contrôle de papier.
Tout à fait, ça a été prouvé. Hein.
Ouais, le nuage est arrivé, ils ont dit hop, 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 pas de papier. Pas
Trump
de papier.
Est jaloux d'ailleurs, hein, oui, parce que lui, il n'a jamais réussi à faire ça.
C'est ce qu'il essaye de faire depuis, bien sûr. Vraiment. Alors évidemment, on plaisante, les nuages, on n'a rien à faire des politiques autoritaires répressives, inhumaines, d'immigration, c'est juste entre nous les humains, c'est un truc entre nous. Donc reprenons. Oksana, elle grandit dans un orphelinat en Ukraine. Elle est abandonnée par ses parents juste après sa naissance, ce qui est déjà lourd, mais c'est pas fini. Alors elle souffre de nombreuses malformations dont on a cité. Je remets, pas de tibia, une jambe plus courte que l'autre. Un seul rein, je connais, c'est mon cas. 6 doigts à chaque main, à partir de ses 5 ans, Oksana passe par plusieurs orphelinats où elle subit de nombreux viols, ce qui est déjà un truc de ouf. Elle est finalement adoptée à l'âge de 7 ans par Gay Masters, une orthophoniste américaine qui la ramènera aux États-Unis, qui l'adoptera, c'est pour ça qu'elle a la nationalité américaine. Après de longs mois de procédure, elle arrivera aux États-Unis à l'âge de 9 ans. Elle est amputée d'une jambe. À 13 ans, elle est amputée de l'autre jambe. Au même âge, elle commence à pratiquer l'aviron. Alors déjà, c'est un destin de malade.
Déjà, normalement. Là, on s'arrête là, déjà, on peut faire l'émission là-dessus. Voilà. C'est incroyable.
Déjà, ce qui lui arrive, c'est complètement fou.
La fille a, comme tu dis, à 9 ans, c'est ça ?
9 ans.
9 ans, elle a vécu plus de trucs horribles en plus.
Mais c'est horrible de ouf.
C'est horrible de ouf. En plus, comme tu dis, elle a été abusée, mais elle a été vendue.
Oui.
En fait, elle était marchandée par les gens de l'orphelinat, ce qui est quand même absolument dégueulasse. Donc déjà à 9 ans tu pourrais te dire
ouais,
tu te fous en l'air en fait. Genre vraiment, non mais en vrai,
oui je suis complètement d'accord,
t'arrives, c'est vraiment lourd. C'est hyper lourd,
ouais. Wow. Et en plus on t'ampute d'une jambe quand t'arrives au state, pour qu'à 13 ans on t'ampute de l'autre,
ouais,
tu vois, enfin, et comme t'as dit, les doigts qui sont soudés, pas de tibia, enfin déjà
de multiples opérations, enfin
déjà juste ce destin là il est déjà hors norme. Mais restez accrochés, c'est pas fini.
C'est rien.
C'est que le début. Donc, elle se révèle très polyvalente. Elle pratique du ski de fond, comme on l'a dit, du biathlon, le cyclisme sur route, l'aviron. À 23 ans, elle remporte sa première médaille dans cette discipline, l'aviron, avec son partenaire Rob Jones, dans l'épreuve de deux en couple mixte aux Jeux paralympiques de Londres. Mais à cause d'une blessure au dos, elle abandonne l'aviron au profit du ski de fond. Donc déjà, tu te dis, je me suis entraîné, je suis parti sur l'aviron, je suis une warrior, parce qu'en fait, elle est... j'ai jamais vu un mental d'acier comme ça de ma vie. Hein. J'en ai connu des histoires de...
Je pense que c'est une personne sur un million, ou un milliard. Enfin, c'est un mental pareil, c'est waouh.
C'est dingo. Et là, on te dit, ouais, le sport que tu fais, t'arrêtes, tu t'es pété le dos. Eh ben, elle lâche pas l'affaire. À 24 ans, elle remporte deux médailles en ski de fond lors des Paralympiques de Sochi en 2014. Elle s'essaie au cyclisme sur route, comme ça, pour le fun. Elle se qualifie pour le Rio en 2016, lors desquels elle arrive quatrième de la course en ligne et cinquième au contre-la-montre. À 24 ans, à 28 ans, elle remporte une médaille d'or en ski de fond au jeu de Pyeongchang, alors qu'elle a 5 fractures à un bras. Pause.
Pousse. Est-ce qu'on peut relire cette phrase, s'il vous plaît ?
Je la refais. Elle remporte une médaille d'or en ski de fond qui est méga physique, comme on l'a dit, comme tu as dit, la neige et tout, machin.
C'est hyper physique.
À 28 ans, alors qu'elle a 5 fractures à un bras. Voilà.
T'imagines ? Tu vois là, tous les hommes qui nous écoutent en sueur. Avec une écharpe.
C'est mon
sur...
cas. C'est mon cas.
Oui, toi, t'es comme ça.
Ah, moi, j'en peux plus. Là, je suis en train de me dire, ah purée, mais la prochaine fois que je dis, oh, j'ai la flemme d'aller chercher le pain. Mais en fait, il faut juste me tais.
Je suis fatiguée, j'ai mal.
Ah, non, juste me tais. J'ai plus rien à dire, en fait.
Et voilà.
Entre 2012 et 2020, Oksana Masters a participé à tous les Jeux paralympiques, a remporté 13 médailles dans 4 sports différents. En 2020, elle reçoit le Laureus Award du meilleur athlète avec un handicap. À 31 ans, on lui découvre, pas fini, hein, une tumeur dans la jambe. Elle doit être opérée. 9 semaines après cette opération, elle reprend l'entraînement avec ses prothèses et parvient à se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo où elle rafle 2 médailles d'or en paracyclisme. Pause.
Attends, on respire.
Pause. Là, j'ai l'impression que c'est des saisons.
Oui, ouais, clairement.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais,
c'est
ouais.
Une série, à chaque fois, il y a une
nouvelle saison.
Attends,
t'as presque envie de dire, non, là vous en faites trop. Le scénariste, ouais. Calme-toi.
Ouais, voilà, voilà.
Le scénariste, c'est trop.
On a déjà eu Princesse Sarah, calme-toi. Tu vois, c'est
un épisode, une saison de Grey's Anatomy, c'est trop.
Voilà, c'est trop. Et là, vous dites c'est fini ? Non ? En 2022, elle remporte une médaille dans les 7 épreuves auxquelles elle participe lors des Jeux paralympiques d'hiver de Beijing-Pékin. 4 jours après ces Jeux, la Russie avait envahi l'Ukraine. Non mais déjà, 7 épreuves...
Tu n'as plus les mots.
Bah, non, la meuf, elle inscrit cette épreuve, elle gagne. Voilà. Sa vie, c'est une série dramatique 5 étoiles. Mais à quand une œuvre à la hauteur de cette femme ?
J'allais le dire.
Je suis choqué. À 35 ans, elle participe aux Jeux paralympiques de Paris. C'était l'année dernière, aux côtés de 2 autres athlètes internationaux. Elle porte la flamme olympique. Quelques jours plus tard, bah, vous savez quoi ? Elle prend 2 médailles d'or au cyclisme sur route. Voilà.
Allez,
voilà.
Bam.
Voilà. Waouh.
Que dire de plus ?
C'est un destin de ouf. Et en fait, comme tu as dit, moi, j'en avais jamais entendu parler.
Et je n'avais Mais c'est ça qui est fou. Je n'en avais jamais entendu parler.
Mais pourquoi il n'y a pas des statues pour cette meuf ?
Mais à quand le film ? Pourquoi il n'y a pas un film ?
Mais une trilogie !
Oui, voilà, au moins une saison.
Là, tu peux faire 4 saisons. Non, mais sérieusement, je suis... profondément
moi, qu'on appelle James Cameron hein, qui nous fasse un truc.
Ah bah Michael Bay même s'il faut à ce niveau là tu vois.
Nolan. Non, peut-être pas Nolan.
Ah, c'est pour le dramatique, pourquoi pas.
Oui, mais après faut
oui, mais après c'est spécial.
Chiant,
mais pour le coup j'ai été à la fois profondément étonné, profondément choqué, et en fait je suis passé de l'admiration à la surprise, à la stupéfaction, à aussi horrible. C'est horrible ce qui lui arrive, tu vois.
Ouais.
Elle a une tumeur dans une jambe alors qu'on lui a déjà amputé les
jambes. Quand tu lui dis ça y est c'est bon, c'est fini,
mais oui.
Et bah, une nouvelle galère, c'est fou.
Et puis, la dernière galère en date sur ce qu'on a trouvé, c'est quand même la Russie qui envahit l'Ukraine, son pays natal. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Elle a un destin de fou et je suis vraiment choqué qu'on n'en parle pas. Alors, je me suis dit 2 hypothèses. Et après, je te laisse voir là-dessus. Hypothèse 1, c'est une meuf. Parce que si c'était un mec, je suis pas sûr qu'on n'en parlerait pas, pour le coup. Deuxième hypothèse. L'invisibilisation déjà des femmes, c'est quelque chose, on en parle chaque semaine, mais l'invisibilisation de l'handisport, je pense que ça joue aussi.
Oui.
Donc je te laisse développer.
Je pense que c'est principalement ça. Je pense que c'est principalement le handisport qui est très peu, voire pas mis en avant dans les médias. Bah, y a qu'à voir, enfin, les JO, c'était il n'y a pas si longtemps hein, à Paris.
Ouais, l'année dernière.
C'était l'année dernière. L'enthousiasme et la communication qu'il y a eu sur les Jeux Olympiques. Et les Paralympiques, tout de suite, le lendemain des Jeux Olympiques, 2 jours après, je crois, commençaient les Paralympiques. Il me semble que c'était 48 heures après. Il n'y avait plus rien, quoi.
Ouais,
à la télé, il n'y avait quasiment plus rien. On nous donnait pas les résultats des épreuves. Enfin, fallait aller chercher les infos, etc. Donc je pense qu'une grosse partie c'est ça. C'est le problème, c'est qu'on ne met pas assez ces sports en avant.
Je suis complètement d'accord avec toi parce que le dispositif de France 2 qui était exceptionnel d'ailleurs, avec Léa Salamé qui était là tous les soirs pour recevoir les médaillés olympiques français. Paralympique, il y a eu peu de choses par rapport à ça. Il n'y avait plus, tu vois, ce plateau chaque soir pour se rassembler, ce rendez-vous. Qui disait, voilà, aujourd'hui, il y a eu telle épreuve, tel Français a gagné tel truc, machin, qui était un peu chauvin, certes, mais qui est bien pour rassembler le pays, puisqu'on en a besoin. Pour le coup, je trouvais ça cool. Et pour les Paralympiques, comme tu as dit, c'est 48 heures après. Pff,
plus rien. Mais vraiment...
très peu d'infos.
Ouais, on a oublié a oublié que c'était là, presque.
Alors que quand on voit des dessins comme ça, voilà. Alors... En 2025, le National Geographic décrit cette légende paralympique. Elle est inspirante par ses médailles, mais aussi par son rôle de mentor pour les générations futures. D'ailleurs, sur National Geographic, il y a un article qui parle d'elle, je vous le conseille, il est ouf. Vraiment, si vous voulez apprendre plus sur cette athlète qui a un parcours tant sportif que personnel de dingo. Je citerai une de ses citations avant d'envoyer de la musique qui est « J'ai reçu une deuxième chance dans la vie. » Alors, pause. Moi, je dirais...
Moi, j'ai 4 ou 5, perso.
Je dirais, t'es un chat.
Voilà.
T'as 7 vies.
Clairement.
Un délire. Grâce au sport, j'ai transformé mes cicatrices en force. Voilà, pas mieux. Donc, chérie, j'irai acheter le pain tout à l'heure. Du coup, musique maestro, s'il vous plaît. Dédicace à Sandrine pour ce morceau, d'ailleurs.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. I'll wear a Santa and a sleigh and tell her why is it always this way.
Bonjour à nouveau auditrices et auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1, je suis Kad, l'homme du 80, vous êtes bien dans l'émission Championne. Vous venez d'écouter du riff de guitare de Ramones avec le morceau Merry Christmas. Car oui, Noël ça peut être rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Voilà, bien sûr, John McLean dans mon cœur. Pour m'accompagner, j'ai toujours Elodie. Jamais de sobriquet pour la troisième partie, c'est bien connu. La régie toujours en place, Diego Armando Maradona bien sûr. Maintenant, nous allons parler de manière libre de ces épreuves d'handisport et de jeux paralympiques. Comment ça marche en fait ? Parce que comme on l'a dit, c'est peu médiatisé. Donc pour le coup, on va parler de certaines épreuves que vous pouvez retrouver quand vous regardez des championnats du monde handisport ou des jeux paralympiques. Alors, les jeux paralympiques, on l'a dit tout à l'heure. En 1948, nous sommes à Stockville. Le neurologue Sir Ludwig Guttmann, j'avais envie de parler de cet homme, organise une compétition de tir à l'arc pour vétérans blessés de la Seconde Guerre mondiale. Au JO de Londres, il y aura 16 participants. Ce sont les Stock Mandeville Games, acte fondateur du mouvement paralympique. En 1960, c'est un peu plus loin, la première édition officielle des Jeux paralympiques d'été voit le jour. Depuis, le mouvement se structure via le Comité Paralympique International, le IPC. En bref, le paralympisme, né d'un projet médical, social, rééducation par le sport, qui deviendra un mouvement sportif international. Et ça, déjà, c'est important de le noter. Donc, les Jeux Paralympiques, c'est comme les JCDA, les JO, tous les 4 ans. Les prochaines éditions pour l'hiver, c'est 2028 à Milan, bien sûr, Italia, du 6 au 15 mars. L'été, ça sera à Los Angeles, ça sera le dernier moment où on entendra parler de Donald Trump, car ça sera la fin de son mandat.
Ouais.
Nous serons en 2028. Et entre le 15 et le 27 août, vous aurez droit aux Jeux Paralympiques. Évidemment, pour les audiences, t'en as parlé tout à l'heure, j'ai un petit point audience, mais on en parlera après. Je te laisse nous décrire une épreuve de ces sports. Vas-y, lance-toi.
Alors, en sachant que j'ai voulu prendre justement des sports qu'il n'y a pas aux Jeux Olympiques valides,
ouais.
Pour montrer qu'il y a aussi les Paralympiques qui s'adaptent beaucoup. Après, il faut savoir que les Jeux Paralympiques, c'est... Il y a énormément de catégories, sous-catégories en fonction du niveau de handicap, etc., etc. Je ne suis pas rentrée aussi profondément dans le sujet parce que sinon, il faudrait une seconde émission, clairement.
Oui, clairement.
Pour ça. Mes deux petits coups de cœur.
Vas-y.
C'est le gueule-ball.
Ouais.
OK. Donc, c'est un sport de ballon qui est pratiqué par deux équipes de 3 joueurs.
OK.
OK. En gros, le but est de lancer le ballon dans les buts adverses.
Jusque-là, ça va.
Sauf que. Les joueurs sont aveugles ou presque aveugles.
Ou malvoyants.
OK. Et du coup, pour qu'ils localisent le ballon, et c'est là que c'est très très fort, le ballon a une petite clochette.
Ah, OK.
Un peu comme dans le cécifoot, qui est beaucoup plus connu.
Tout à fait.
Sauf que là, ils sont à terre. Dans un terrain qui est beaucoup plus petit.
Okay.
Donc en fait, il se mouvoie à terre et le ballon glisse du coup d'un terrain à l'autre. C'est incroyable
à
regarder.
Ils peuvent utiliser...
Leur corps.
Ah d'accord, cool.
Pas les mains, sauf le col.
Ouais, voilà. Parce que
et les pieds.
Ah ouais.
Donc ça fait... en fait, j'ai bien aimé parce que ça, ça te rappelle un peu... Je sais pas si tu faisais ça toi aussi, mais... Tu sais, quand tu joues avec tes cousins l'été et tout, machin, à vous lancer le ballon et que tu dois faire semblant que tu es en train de dormir parce que tes parents, ils n'arrêtent pas de venir, tu vois. Et du coup, tu es allongé et tu tires le ballon allongé. Dès que tu entends du bruit, hop, tu te remets. Ça m'a fait penser à ça.
Ah ouais.
Tu vois, cette dynamique où tout ton corps doit bouger pour aller chercher le ballon. En même temps, ils sont hyper alertes au son et tout. Je trouvais ça incroyable.
C'est exceptionnel. Je connaissais pas du tout. J'ai lu parce que quand j'ai cherché des épreuves pour en parler justement, j'ai vu que ça existait, mais j'ai pas cliqué dessus. Excellent. Écoute, moi je te réponds à ça par un truc très connu.
Contre-keps.
Alors moi je réponds à un truc très connu, mais je voulais mettre un peu de lumière là-dessus. Le basket fauteuil. Vous êtes en chaise roulante, c'est pas grave, vous pouvez faire du basketball, rien à foutre. Une adaptation du basketball destinée aux athlètes ayant un handicap moteur, des membres inférieurs. C'est l'un des sports paralympiques les plus anciens et les plus spectaculaires. Oui, parce qu'en fait, finalement, j'ai regardé 2-3 vidéos et ça rigole pas.
Ah ouais, non, ils sont très forts.
Ah ouais, ça rigole pas. Vraiment, c'est un dur. Donc, dans le règlement de ce sport, il est stipulé clairement que le fauteuil est une extension du corps. C'est très important. Parce que le fauteuil est compté dans les charges, les blocages, les contacts, et donc l'impact. Et effectivement, quand j'ai regardé une vidéo là, d'un tournoi récent, ils se rentrent dedans. Parce qu'il faut savoir que dans le basket, pour avoir le ballon sous le panier, vous utilisez votre corps.
Mm-hmm.
Eux, ils utilisent le fauteuil. Waouh, ça rigole pas. Il y a des chutes, il y a des bims. Oh là là.
Ils se relèvent.
Justement.
Ils se redressent. C'est impressionnant, regardez.
Et donc, il faut en plus savoir dribbler parce que vous devez vous propulser. Vous avez le droit à 2 poussées sur les roues. Tac, tac, hop, tac, 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 tac. Je le refais. Chouf, chouf, tac, 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 chouf, chouf, tac, tac, tac. Oui, parce qu'on n'a pas l'image. Imitateur depuis 1902, merci. Et ça, c'est complètement ouf. Vraiment, ce sport, il est dingo. Et chaque joueur va recevoir effectivement un score déjà de base par rapport à son niveau de mobilité. Plus vous êtes mobile, plus vous allez marquer moins de points. Moins vous êtes mobile et plus vous marquez de points. Et là, ça fait péter le score. Donc vraiment, c'est un délire. Ça se joue vraiment sur un terrain qui est identique que le basket. Sauf que les gars sont en chaise roulante et ils se rentrent dedans. Et vraiment, c'est un exploit parce qu'il y a la propulsion du fauteuil, le maniement du ballon, le trajectoire de tir, les contacts très violents.
Je ne sais pas si le panier est à la même hauteur par contre. J'ai un doute là tout de suite. Je n'ai pas regardé.
Je ne suis pas sûr qu'il soit à 3,05. Je crois qu'il est un peu plus bas.
Non, je pense qu'il est un peu plus bas.
Ouais. Il doit être à 2,50 m, truc comme ça, je pense. Mais ça vaut grave le coup. Et vraiment, je voulais en parler parce que mais parce qu'ils se rentrent dedans, les mecs, tu vois. Ça, il y a du contact, tu vois. Tu étais là, ouais, nanani, non, non, ta.
Bah, comme il y a du rugby.
Ouais,
en fauteuil. C'est incroyable. Les mecs, ils se foncent dessus, des chars. C'est incroyable.
Non, mais à un moment donné, tu peux pas dire qu'il n'y a pas un public pour ça.
Mais non.
Il y aura des gens qui vont regarder.
C'est trop cool à regarder.
Mais oui, c'est dingo.
Mais c'est trop... En plus, mais je trouve que c'est encore plus physique que le, ouais. que le sport dit classique. Parce que... comment dire ?
Le bah, mental, déjà.
Ouais, déjà le mental. Bah, ouais. Ça c'est pour moi, ils sont bien au-dessus de n'importe qui d'autre. Mais les mecs, ils doivent... pousser leur corps, gérer la balle, gérer les adversaires, gérer le fauteuil,
c'est ça.
Garder l'équilibre,
l'impact,
les stratégies de jeu.
Oui.
Faut garder le sang-froid pour tirer, passer, nanana, analyser le jeu et tout. Là où, pour le basket, on va dire classique, tu cours, tu passes, tu marques.
Ouais.
Je synthétise beaucoup parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je trouve qu'il y a 10 fois plus de choses à gérer en même temps. Pour les sports
pour les handisports
pour les handisports ouais exactement
non, je suis complètement d'accord avec toi, c'est pour ça que je voulais parler de celui-là parce qu'il rappelle effectivement facilement un truc qu'on connaît mais qui c'est enfin même pour le fun je pense que ils devraient organiser des initiations pour les valides pour qu'on se rende compte du truc
ouais, et là franchement j'adorerais essayer
moi non t'es ouf moi je sais déjà je vais pas pouvoir
ah non mais moi je vais pas y arriver
ils
mais
vont me terminer
déjà moi j'ai une coordination qui est plus que douteuse. Donc déjà, moi, quand on va me dire « pousse le fauteuil et attrape la balle en même temps », je vais perdre une dent. Donc...
je te laisse envoyer ton deuxième sport.
Donc, alors, mon deuxième sport qui est beaucoup plus chill, j'ai voulu prendre un truc beaucoup plus chill, c'est la boccia.
Oh.
Ça sonne italien déjà, j'aime bien. En gros, la boccia, bah, déjà, ça veut dire « boule » en italien. Et c'est un sport qui va s'apparenter énormément à la pétanque.
Okay.
Mais en fauteuil également. Et ça, pour le coup, j'en ai jamais vu.
Bah, moi non plus, mais Diego Armando, il a l'air de connaître. Ouais.
Ah, ça a l'air incroyable. En gros, bah, les parties se déroulent. Ça dure entre 30 et 120 minutes.
Ok.
Donc c'est comme des longues parties.
Une vraie partie.
Il y a un tirage au sort au début pour, avec équipe rouge, équipe bleue. C'est l'équipe bleue qui commence. Enfin, il y a des vraies règles. Il y a un cochonnet qui s'appelle le Jack, du coup, c'est ce qui s'apparente au cochonnet chez nous. Et ils sont en fauteuil roulant, ils doivent tirer, c'est à peu près les mêmes règles, il y a des subtilités, mais en gros c'est ça.
Putain, mais c'est excellent.
C'est incroyable, j'ai jamais vu. En faisant les recherches, j'ai vu des photos de matchs, etc., etc. Mais alors là, pour le coup, je n'en avais jamais entendu parler.
Pareil, jamais entendu parler.
Autant le goalball, j'en avais déjà vaguement entendu parler, le cécifoot, le rugby, le basket, comme on en a parlé. On connaît tous un peu vaguement de noms, on a déjà vu des images. Autant la boccia,
jamais calcul,
vraiment jamais.
Mais ça a l'air génial.
Ça a l'air trop cool.
Mais
à
quand l'équipe 21 qui récupère pas les droits? Ils font des tournois de fléchettes, les mecs, allez-y.
Mais j'adore les tournois de fléchettes.
Ouais, moi aussi.
Nouvelle grande passion.
Pas mentir, ça me détend quand je tombe sur ça.
Trop. Mais moi, je peux être à fond dedans.
Ah ouais, carrément.
Oh, carrément. Laisse tomber, bref.
Ensuite, moi, j'ai pris un classique pour le rappeler à tout le monde qu'il existe bien, mais parce qu'il y a une certaine performance. C'est le 100 mètres pour déficient visuel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des athlètes classés, et les classements, c'est généralement la lettre T et un numéro, donc les T11, les non-voyants ou presque, qui ont un guide binôme, et le guide, il court à côté d'eux, attaché généralement par un lien souple à la main ou au poignet. Déjà, juste ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que votre binôme est censé s'entraîner avec vous, parce qu'il y a une histoire de synchronisation, et s'il est désynchronisé, vous ne pouvez pas arriver dans les premiers ou faire une grande performance. Donc déjà, il y a un truc de ouf, qui est déjà sur une espèce de lien fraternel qu'il y a entre le guide et l'athlète. Donc cette synchronisation extrême entre le non-voyant et le guide, et la confiance totale, parce que c'est l'un qui se vautre, qui n'est pas dans la même foulée, ça peut carrément vous empêcher de gagner une médaille. Et les médailles sont attribuées par contre aux athlètes, pas au guide, bien que le guide soit fondamental à la performance. Et je trouve ça dingo. Alors je pense que tu en as déjà vu à la télé, il me semble.
Oui.
Ça, on l'a déjà montré ce sport assez souvent. Mais je suis impressionné par le fait d'être attaché à quelqu'un. Déjà, juste ça, tu vois, tu sens qu'il y a un lien.
Moi, ce qui me fascine dans ces épreuves-là, parce qu'il y en a aussi dans le ski, c'est la confiance aveugle. pour le coup, ouais. Que tu dois avoir.
Bien vu. Pas mieux.
Que tu dois avoir pour ton partenaire en fait.
Bah ouais.
Pour ton binôme, parce que tu dois lui faire une confiance à 100%. Tu dois, en fait, vous devez littéralement faire qu'un.
C'est ça.
C'est que le moindre pas, le moindre mouvement doit être interprété et réagir au quart de ouais. tour.
Parce qu'en fait, il va mettre l'athlète dans la bonne direction, mais il ne doit pas être trop lent, trop rapide, parce que sinon, il va le désynchro, ce qui est déjà hyper fou. Et à ce côté, comme tu as dit, l'athlète étant malvoyant, voire aveugle, bah, en fait, c'est l'autre qui dirige. Donc, la confiance, elle est dingue. Et je trouve que c'est un sport qui est un sport partenaire, qui n'est pas assez mis en avant, alors que bien connu, parce qu'on ne met pas assez l'accent sur le lien qu'il y a entre les deux sportifs, finalement. Et ça, je trouve que ça devrait être mis plus en avant, parce que là, on a vraiment une vraie passerelle entre valide et invalide. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, c'est très complémentaire.
Exactement.
Souvent, le guide est valide.
Exactement.
Après, ce qui est bien, pour le coup, c'est que les deux remportent la médaille. Si médaille il y a.
Ah bah non, c'est que le...
Ah bah moi, j'ai vu le
contraire. Ah mais si, le maître, je suis bête. Oui, fake news. Alors, bienvenue chez Pascal Pro. Je m'excuse. Effectivement, oui, si, quand ils sont sur le podium, ils prennent les deux la médaille. T'as
les
raison.
Deux prennent la médaille.
Ouais, ouais, complètement. Ils sont crédités les deux, c'est vrai.
Oui.
C'est complètement vrai.
Ce qui est quand même.
Ce qui est génial.
Ce que je trouve quand même normal, déjà.
Bah, oui.
Parce que même si le guide est valide, faut quand même qu'il s'entraîne, qu'il s'adapte. Enfin, c'est quand même une vraie performance. Donc, je trouve ça logique.
Ouais, et puis c'est surtout que le guide, il est au service du sportif. Et je trouve ça génial. Bref, c'est un des sports que j'ai trouvé les plus cool. Et effectivement, même si je ne suis pas sorti des jalons, c'était classique, je trouve quand même que c'est pas mal. Donc, ensuite, t'en as un autre ?
Moi, j'ai un petit dernier.
Allez, vas-y, mets ton petit dernier.
Bon, celui-ci, il n'est pas propre au handisport, mais je voulais quand même revenir dessus. C'est l'haltérophilie.
Oui, oui, oui.
Déjà, l'haltérophilie, point. déjà, soulever l'équivalent.
Soulever des bœufs, voilà. Soulever des vaches.
Soulever des minibus, enfin moi, voilà. À partir du moment
où... Un poney dans chaque main, chaque matin.
C'est ça. Donc déjà, les sports de force, je trouve ça incroyable. Mais ce qui me plaisait d'en parler, c'est que souvent dans l'inconscient collectif, faire du handisport, c'est forcément être moins fort
que
d'autres.
Complètement.
Ou avoir des performances moindres, être moins rapide, moins fort, moins agile, etc. Ouais. Mais toujours moins, c'est moins bien. Moi, j'en ai vu, je le fais pas. Hein. il soulève des 2, 3, 400 kilos. Moi, je le fais pas. Hein. Je suis valide. moi, je le fais pas. Donc, c'était ça qui me plaisait. Comme quoi, oui, il y a quand même de l'haltérophilie. Alors, c'est pas les mêmes poids. Le record du monde, je crois qu'il a été dépassé cette année. Mais aux dernières nouvelles, c'était 500 kilos. Une demi-tonne, quand même.
Wow.
Je l'ai vu à la télé. C'était incroyable. Wow. Ouais, je l'ai vu à tester il y a quelques années.
Oui,
enfin, j'ai vu une rediffusion, mais c'est incroyable.
Et dans l'handisport haltérophilie, ils sont du 200-300 kilos, j'imagine.
C'est clac, clac, clac. J'ai pas, écoute.
Non, bah, à mon avis, 200-300 kilos, easy. Hein.
Ouais, bah, ça, au moins, je pense.
Bah, si 500 kilos pour du valide, t'as au moins du 300 kilos.
Je pense, ouais.
Mais déjà, juste, je soulève 50 kilos, moi je suis cuit. Hein. Je tiens quand même à préciser.
Mais moi, je me soulève moi-même.
Voilà.
On est sur les... tac, tac, tac. Ouais, le record pour la catégorie plus de 107 kilos, on est à 310.
Wow, 310 kilos.
310 kilos.
Wow. Mais t'as raison, en plus, c'est vrai que...
Et pour la catégorie la plus basse, donc les moins de 88 kilos, on est quand même à 251.
Oui, comme quoi, c'est pas si déconnant de vouloir le mettre à l'antenne, puisqu'en termes de performance, on s'approche quand même de ce qu'on voit dans les jeux entre guillemets valides. Après, je pense qu'aussi, là aujourd'hui, ce qui est plutôt bon, puisque c'est le cas des audiences, je voulais revenir sur les audiences rapidement, sur les JO, mais en tout cas, on a vu qu'il y a... alors oui, les audiences ne sont pas les mêmes, mais tu as complètement raison sur le fait qu'il y a une invisibilisation de l'handisport. Néanmoins, pour le coup, il y a une augmentation. Depuis 4 ans, en fait, il y a vraiment une énorme augmentation à leur échelle, hein, faut remettre dans le contexte, il y a une augmentation en fait, des gens qui regardent le handisport, et ça, déjà, c'est plutôt pas mal, en fait. Parce qu'avant, ce n'était pas vraiment le cas, tu vois. Tu vois, par exemple, les JO d'été 2024 classiques, on est à 9,5 millions de tickets vendus. Pour les Paralympiques, on était plutôt aux alentours de 2,5-3 millions. Donc tu vois, c'est divisé par 3 en fait. Néanmoins, depuis maintenant 8 ans, il y a une augmentation des téléspectateurs et de la couverture médiatique et depuis Tokyo. Tokyo 2020, bah, quand tu prends l'audience globale de Paris 2024 Paralympique, c'est 40% d'audience en plus.
Quand même.
C'est quasiment la moitié, tu vois. Donc il y a vraiment une avancée là-dessus sur une visibilité et c'est cool. Après, moi je pense qu'aujourd'hui, ça sera plus visible pour une chose très simple. Et malheureusement, on arrive à la conclusion de cette émission. Je sais, à votre micro, vous avez vous aussi plein de choses à vouloir dire sur ce sujet, c'est clair. C'est que avant, l'handicap primait avec vision d'horreur. Mm-hmm. Les gueules cassées, 14-18, tout ça. Aujourd'hui, on a plein de nouvelles technologies qui permettent en fait de vivre avec un handicap, mais visuellement, pour le commun des mortels, c'est pas « Ah, je veux pas voir ça !» Tu vois. Quand on prend par exemple les prothèses carbone en espèce de pattes de félin en carbone pour ceux qui courent, bah t'as pas l'impression qu'en fait le gars il est si handicapé que ça, tu vois. Donc visuellement, il y a eu un effort avec les technologies qui fait que pour le grand public, c'est acceptable de les voir. Et je pense que ça, c'est culturellement, ça a beaucoup changé.
Oui, c'est plus, c'est plus visuel en fait.
Voilà.
C'est bête à dire, mais c'est plus... Ouais,
parce que tu vois, quand t'as ces prothèses carbone, t'as l'impression d'être dans le futur. Je sais pas, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Tu dis, waouh, on est dans le futur. Et donc, le grand public...
On parle de plus en plus de technologie quand on parle de prothèses. Ou avant, on parlait de prothèses d'aide.
Ouais, c'est ça.
Maintenant, on parle de technologie. Comme tu dis, on parle de carbone, d'acier, de matériaux toujours plus souples, toujours plus légers, toujours plus maniables. Enfin, et du coup, ça rentre dans dans l'inconscient collectif, comme quoi, genre, ah ouais, il y a un vrai truc derrière, c'est réfléchi pour faire les meilleures performances, pour faire le meilleur
ceci. Le cyberpunk. Je vais la placer.
Obligé. Donc, je pense que ça rentre petit à petit, plus on en parle, plus les gens en parlent, et je pense que oui, ça va augmenter... dans les prochaines années et on va avoir des belles choses qui vont arriver sur nos antennes.
Je suis impatient. Alors évidemment, remerciements à la chaîne Aligre FM 93.1. Il me reste 30 secondes, je vais être rapide, vous inquiétez pas. Le compte Instagram Championne, @championne_l'émission. La Fédération Française de Ski, @FedFranceSki. Oui, je vous jure, c'est ça. La Fédération Internationale de Ski de Fond, c'est @FIS Freestyle. Oksana Masters, vous pouvez la trouver sur Instagram sur Oksana Masters, bien sûr. La page Facebook Quiz de Foot pour un ami qui vous veut du bien, c'est Damien. Et ça rime. Et je te laisse le mot de la fin. Tu as 5 secondes.
Et bonne soirée à tout le monde. N'hésitez pas à faire du sport, comme quoi tout est possible.
Voilà, n'abandonnez jamais vos rêves. Il y a pire que vous dans la vie. Et si les gens ont réussi, vous pouvez le faire. Des bisous à Diego Armando Maradona. Vive la France, vive la République, vive le général. Bisous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.